Merci d'écouter Europe 1, il est 19h.
Nous sommes à un grand tournant historique dans cette affaire. Parce que ça fait 30 ans que mon client souffre. Un innocent aujourd'hui se bat depuis 30 ans pour prouver son innocence.
30 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, le combat d'Omar Radat pour prouver son innocence peut être relancé. Son avocate affirme disposer de preuves scientifiques pouvant conduire un procès en révision.
Le variant Delta met les Landes sous pression. Le Premier ministre annonce un plan de 7 jours pour le département.
Les élections régionales en PACA, Nicolas Sarkozy sort de sa réserve et appelle à voter pour Renaud Muselier dimanche à l'occasion du second tour.
Faites donc taire ce média qui ne pense pas comme nous. À Hong Kong, Pékin obtient la fermeture du dernier quotidien libre. Ce sera l'œil de Didier François dans un instant.
C'est une règle effacée et ça va tout changer. L'UEFA jette au panier l'avantage du but marqué à l'extérieur.
La météo, Laurent Cabrol, en un mot pour demain.
C'est une journée de transition, une journée de répit où nous aurons des éclaircies, mais malheureusement ces éclaircies ne vont pas durer bien longtemps. Donc profitons-en.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'affaire Omar Radat va-t-elle connaître un nouveau rebondissement 30 ans, jour pour jour, après les faits? On se souvient que le jardinier avait d'abord été condamné pour l'assassinat de Ghislaine Marchal. Il a retrouvé la liberté après une grâce partielle du président Jacques Chirac, mais le jardinier n'a toujours pas été blanchi dans cette affaire.
En tout cas, il n'a jamais cessé de clamer son innocence et une nouvelle expertise ADN pourrait l'y aider. Son avocate vient en effet de déposer une requête pour demander une révision de sa condamnation, Justin Morin.
Oui, moment solennel ce midi devant le grand portail du palais de justice. L'avocate Sylvie Noakovic, entourée de l'académicien Jean-Marie Rouard, de l'ancien député Georges Fenech et d'autres, tous ici pour rappeler leur engagement en faveur d'Omar Radat. Au centre, son avocate transporte un énorme dossier qu'elle a déposé au magistrat de la cour de révision.
Nous sommes à un grand tournant historique dans cette affaire. Parce que ça fait 30 ans que mon client souffre. 30 ans qu'une femme aussi a été tuée dans des conditions extrêmement sauvages. Un innocent aujourd'hui se bat depuis 30 ans pour prouver son innocence. Omar Radat, même s'il n'est pas là aujourd'hui, il est là avec moi en pensée. Il attend énormément, énormément de ce procès en révision. Les éléments nouveaux que j'apporte sont essentiels.
Ces éléments nouveaux dont parle l'avocate datent en fait de nouvelles analyses. Sur l'une des deux portes où les inscriptions en lettres de sang ont été retrouvées, 35 traces d'un ADN masculin ont été découvertes. Et selon l'expert qui a rédigé le rapport, il y a peu de chances pour qu'il s'agisse de pollution, c'est-à-dire d'un ADN laissé par les enquêteurs par exemple. Lui favorise l'hypothèse d'un dépôt au moment des faits et donc l'existence d'un potentiel nouveau suspect. Maître Sylvie Noakovic appelle à ce que tous les moyens soient utilisés pour découvrir à qui correspond ce nouvel ADN. Cela pourrait déboucher sur un nouveau procès afin qu'Omar Radat soit enfin innocenté.
Affaire passionnante en tout cas. Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. À Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, l'enquête sur la disparition de Lucas Tronche est peut-être relancée.
Des ossements pouvant être d'origine humaine, des morceaux de vêtements ont été découverts à moins d'un kilomètre du domicile où l'adolescent a disparu en mars 2015. Des examens médico-légaux et si possible génétiques vont être pratiqués dans les prochains jours.
Le variant Delta pourrait représenter jusqu'à 90% des nouveaux cas d'infection en Europe. En France, un département est déjà sous surveillance.
Oui, Jean Castex s'est rendu dans les Landes où le variant prolifère. Le Premier ministre annonce un plan d'action sur 7 jours.
On a constaté une reprise de l'épidémie. Le taux d'incidence a redépassé le seuil de 50 pour 100 000 habitants récemment. Et on a identifié, certes en nombre limité, mais en nombre suffisant pour que cela nous mobilise, la présence de ce variant Delta. Donc la situation des Landes, il ne faudrait pas qu'elle préfigure le développement de ce variant. C'est la raison pour laquelle nous essayons de mettre en place toutes les actions nécessaires.
Les élections régionales en PACA, le duel entre Renaud Muselier et Thierry Mariani s'annonce serré.
Et dans ces conditions, tous les soutiens comptent. Dernier en date, celui du candidat écologiste Jean-Marc Governatori, éliminé au premier tour avec moins de 10% des voix. Il appelle à voter Muselier.
Mais le soutien le plus important, c'est sans doute celui, Christophe, de Nicolas Sarkozy. Dans une interview à Nice ce matin, l'ancien président demande aux électeurs de voter Muselier, Aurélie Herbemont.
Oui, Nicolas Sarkozy sort de sa toute relative retraite politique pour voler au secours de Renaud Muselier. « J'ai choisi de faire une exception pour la région PACA », dit l'ancien président, « parce que je suis inquiet de la situation ». Un sondage donne aujourd'hui 51-49 pour le président LR sortant face au candidat RN. Autant dire qu'on est dans la marge d'erreur et qu'il est bien difficile d'anticiper qui va l'emporter dimanche. Les amis doivent se manifester dans les moments moins faciles. « C'est ce que je fais », explique l'ancien chef de l'État, et d'appeler à la raison les élus de droite qui ont refusé de soutenir Renaud Muselier au premier tour à cause de l'accord avec En Marche. Si Renault perd, vous perdrez tous, prévient Nicolas Sarkozy. Au passage, il égratigne son ancien ministre, Thierry Mariani, passé dans le camp Le Pen. La trahison des engagements, c'est lui. Bref, Nicolas Sarkozy fait le job, comme on dit, pour soutenir Renaud Muselier, mais sans aller jusqu'à faire un déplacement à ses côtés, car dimanche, le candidat de la droite devra aussi pouvoir compter sur les voix de la gauche et des écologistes.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. La question du comportement des abstentionnistes interroge la classe politique et les sondeurs. On a peut-être un élément de réponse.
Oui, 36% des Français se disent prêts à aller voter dimanche. Résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Et à la question portant sur les moyens de lutter contre l'abstention, 59% des sondés se déclarent opposés au vote obligatoire.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Pensez comme nous ou disparaissez. Pékin fait fermer le dernier journal libre d'Hong Kong.
Et puis l'UEFA dit stop à la règle du but marqué à l'extérieur dans ses compétitions.
A tout de suite. 19h08, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. Et il y avait du monde devant les kiosques à journaux de Hong Kong. File d'attente interminable, malgré la pluie battante, pour s'arracher le dernier numéro d'Apple Daily. C'est le dernier quotidien indépendant de la péninsule.
Oui, il a dû mettre la clé sous la porte face au harcèlement des autorités chinoises. On en parle avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ça fait plaisir de vous retrouver. Cette fois, Pékin a obtenu la fermeture définitive du dernier média qui osait critiquer le Parti communiste.
Oui, avec cette une terrible, la photo d'un journaliste dans sa salle de rédaction ravagée par la police, et ce titre en forme d'oraison funèbre qui couvre toute la première page. L'Apple Daily est mort. Donc c'est effrayant, on assiste en direct à l'assassinat d'un journal broyé par la machine répressive chinoise, et pas n'importe lequel, parce que l'Apple Daily, c'était une véritable institution à Hong Kong qui, maintenant, depuis 26 ans, trônait sur la table du petit déjeuner dans de très nombreuses familles de la péninsule. 500 000 lecteurs chaque jour, c'est énorme pour une petite province de 7 millions d'habitants seulement, mais parce que ce journal était extrêmement populaire en format tabloïd, avec des articles courts, percutants, des photos couleurs, des faits divers évidemment, mais aussi une très grande vitalité de débat, une information pluraliste, et puis surtout, une véritable impertinence vis-à-vis de Pékin. Et c'est cela que paye aujourd'hui ce journal, le fait d'être devenu un symbole de l'autonomie hongkongaise, une indépendance de ton tout à fait inexistante en Chine continentale, où sa diffusion a d'ailleurs toujours été interdite, puisque seule la presse communiste, officielle, étatique, en bref, les organes de propagande du parti y ont droit de citer, il ne faut jamais l'oublier.
Et il n'y avait pas moyen de résister, hein, Didier.
Eh bien écoutez, les journalistes ont tout tenté et se sont battus jusqu'au bout, mais la lutte était trop inégale face au rouleau compresseur de l'appareil sécuritaire chinois. D'abord, tous les actifs du journal ont été gelés, à commencer par ses comptes en banque, ce qui fait que les salaires et les imprimeurs ne pouvaient plus être payés. Ensuite, le fondateur du journal, Jimmy Lai, croupi dans une geôle depuis le mois d'août 2020 et encourt une peine de perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. La semaine dernière, ce sont plus de 500 agents de la police politique chinoise qui ont mené une perquisition dans la rédaction du quotidien, confisquant les ordinateurs et arrêtant 5 rédacteurs en chef qui sont accusés de sédition en collusion avec des puissances étrangères et risquent donc également la prison à vie. Et puis enfin, le pouvoir communiste menace de lancer des poursuites sous les mêmes chefs d'inculpation contre les journalistes, mais aussi contre les abonnés de l'Apple Daily, ce qui vise évidemment à décourager toute velléité de résistance. C'est une véritable chape de plomb chinoise qui s'abat sur Hong Kong pour étouffer ces derniers foyers de liberté d'expression.
En effet, l'œil de Didier François, spécialiste des affaires internationales, tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci à vous Didier.
Merci.
La France épinglée par le Conseil de l'Europe pour la gestion de ses détenus dans les prisons et pour les conditions de détention.
Surpopulation carcérale, mauvaise prise en charge des détenus nécessitant des soins en psychiatrie, faute de place. Le rapport du Conseil européen fait part de sa vive préoccupation et pointe également la situation dans certains commissariats où quelques gardés à vue sont l'objet d'insultes racistes pour les uns et parfois de coups pour les autres.
Natixis condamné à une amende pour avoir trompé ses actionnaires pendant la crise des subprimes.
La banque avait caché son exposition sur les produits dérivés très risqués qui ont provoqué l'effondrement des places financières mondiales en 2008. Natixis devra payer 7,5 millions d'euros d'amende et verser aux victimes 3 euros d'indemnité par action détenue.
Et puis on voulait vous parler aussi de cette petite révolution, Christophe, dans le monde du foot, l'UEFA qui veut supprimer l'avantage du but à l'extérieur dans les compétitions.
Et la fameuse règle qui a souvent donné des soirées européennes pleines de suspense, parfois provoquer des maux de tête aussi, il faut bien le dire. L'UEFA a décidé de la supprimer en Coupe d'Europe dès la saison prochaine, celle qui va commencer en août. Mais Simon Rubin, si cette règle n'existe plus, on fait comment ?
Eh bien, la place en aura droit à des prolongations suivies de tirs au but. Hein, par exemple, cette saison, le PSG a éliminé le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Grâce à la fameuse règle du but à l'extérieur, Paris gagne avec un but d'écart à Munich, puis perd avec un but d'écart à domicile, mais en ayant marqué 3 buts en Allemagne contre un seul pour les Allemands en France. Alors, sans cette règle, eh bien, un tel scénario aurait conduit à des prolongations. Alors, selon l'UEFA, cette règle du but à l'extérieur, elle bride les équipes qui reçoivent, les incitant à prendre le moins de risques possible et donc in fine tuerait le spectacle. C'est assez discutable et certains fans de football regrettent déjà cette règle introduite en 1965. Alors il faut y voir une tentative de plus pour moderniser le football européen. Rappelons que cette sacro-sainte règle du but à l'extérieur, cela fait des années qu'on parle de la supprimer. Cette fois, l'UEFA est donc passée à l'acte. Avec, dit son président, la volonté de renforcer aussi l'équité de la compétition. Désormais, peu importe le nombre de buts marqué, c'est l'équipe qui gagnera sur la somme des deux matchs qui sera qualifiée. Au moins, ça a le mérite d'être simple.
C'est exactement ça. Ça a le mérite d'être simple. On va arrêter les calculs. Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Dans votre journal, Christophe Lamarre. Merci Christophe. On vous dit à demain. Laurent Cabrol, Demain donc journée de répit et de transition.
Exact. Journée de répit avec des éclaircies. Vous serez très heureux de voir ce soleil sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, le Massif central, le Poitou-Charentes et tout le sud-ouest, ainsi que la région Rhône-Alpes. Il y aura quelques averses encore sur l'Alsace, mais ce sont les dernières. Et puis, il fera très beau près de la Méditerranée. Malheureusement, du vent. Mistral et Tramontane vont souffler autour de 60 à 70 km/h. Et puis, il y a quand même une petite réserve à installer sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, puisque là, nous verrons apparaître dès le matin des petites pluies qui, dans le courant de l'après-midi et de la soirée, vont gagner les Pays de la Loire, le centre, la région parisienne, la Champagne et les Ardennes. Donc sur Paris, profitez de votre matinée surtout et une partie de l'après-midi. Mais dans l'ensemble, vous le voyez, donc le soleil ne durera pas. Le mauvais temps, ou en quelque sorte ce temps très humide, eh bien sera celui que nous aurons samedi et dimanche et une partie de la semaine prochaine.
Bon, on aura le temps d'en reparler avec vous. Malheureusement, merci beaucoup Laurent Cabrol. On vous souhaite une excellente soirée. Merci Laurent.
Merci.